José Moselli, un drame sous la terreur. La neige tombait serrée sur Paris endormi. Paris plus qu'endormi, assoupi, apeuré, dompté. Personne dans les rues où l'on s'exposait à être accosté, arrêté, incarcéré par la simple rencontre d'un patriote un peu trop exalté, lequel avait vite fait de vous emmener à la section. Malheur à celui qui ne pouvait rentrer sa carte de civisme. En ce mois de frimaire 1793, les choses allaient vite. La sainte guillotine ne chômait pas. Une délation, justifiée ou non, un simple soupçon, et l'infortuné qui en avait été l'objet était expédié à la conciergerie, à l'abbaye ou dans une des nombreuses prisons de Paris révolutionnaire, dont il ne sortait que pour mettre la tête à la lucarne nationale. Dans une petite chambre située au cinquième étage, sous les combles d'une étroite maison tout en hauteur de la rue de Tours-Saint-Honoré, deux personnes étaient réunies autour d'une méchante table de bois blanc, un vieillard et une jeune fille. L'homme était grand, quoique voûté, une redingote de bougran luisante d'usure, mais sans une tache, le vêtait. Son visage rasé, au très fin, exprimait la douceur et la fermeté. La jeune fille lui faisait vis-à-vis, lui ressemblait trop pour qu'un doute eût été possible. C'était le père et la fille. Blonde, mince, la figure naturellement rieuse, mais étreinte présentement par une profonde tristesse, Aimée de Ploy avait été dotée par la nature de deux larges yeux couleur de bleuet qui assombrissaient de longs cils châtains et d'une somptueuse chevelure d'or fauve. Son costume, composé d'une robe de rétine noire et d'un fichu de soie usé, chastement croisé sur ses magnifiques épaules, faisait ressortir encore son éclatante beauté. Ainsi que le comte de Ploy, son père, elle était debout, des mains mignonnes appuyées au rebord de la table. Monsieur de Ploy, lentement, comptait, à la lueur d'une grosse chandelle fumeuse, une liasse d'assignats crasseux placée devant lui. « 27 500 livres, dit-il enfin en soupirant. « Autant dire de quoi acheter une paire de bottes. » Il faudrait des chevaux et une voiture. Toi que t'en dises, ma fille, nous sommes suspects. J'ai été suivi aujourd'hui, lorsque je suis allé vendre tes derniers bijoux. Nous pouvons être arrêtés d'un moment à l'autre. Oh, M. Gardex m'a affirmé que nous ne risquions rien pour le moment, mon père, dit la jeune fille. On ne risque rien à midi et à 4 heures, mais on est guillotiné, ma fille. Et si ce n'était que moi, oh, je mourrais volontiers. Le roi est mort, et aussi la reine. Rien ne m'attache plus au monde que ton salut, mon enfant. En vérité, j'aurais cru tirer plus de ces bijoux. Monsieur le Corbier qui nous attend pour acheter les chevaux, j'étais si content. Le baron avait réussi à se procurer des passeports pour nous trois. Et voici que tout est remis en cause parce que nous n'avons pas d'argent. Mais mon père, monsieur de Sorbier, nous en avancera pour les chevaux, murmura Aimé de Ploy en rougissant légèrement. Il est riche et... Oui, ma fille, je sais, vous avez une sincère affection l'un pour l'autre et il est prêt à faire tuer pour nous. Il est bien question de cet écu, vraiment. Non, je le considère déjà comme mon fils, mais il a dépensé son dernier sol à travers acheter des 3 petits passeports qui nous permettraient de passer en Angleterre si nous avions de quoi acheter des chevaux. Je croyais que tes bijoux, résignons-nous. Sorbier nous attend à l'aube à la porte de Montmartre pour acheter les chevaux. Un maquignon qu'on connaît. Je lui avais promis d'apporter 200 000 livres. Le baron eut un mince sourire. 200 000 livres d'assignats républicains, soit à peine 2 000 livres de mon argent. Et soit à peine. Nous avons 27 000, une misère. Oh, je vais aller dire au baron de ne plus compter sur nous, de s'éloigner de Paris pour tous les moyens possibles. Les passeports qu'il s'est procurés, il étant encore valable qu'en 3 jours, juste le temps d'arriver à Calais. Résignons-nous, mon enfant. La jeune fille ne répondit pas, mais deux grosses larmes jaillirent de ses paupières et roulèrent bien lentement sur ses longs pâles. Tous ses rêves de bonheur, toutes ses espérances s'écroulaient d'un coup. Elle avait sacrifié sans hésiter les modestes bijoux, souvenirs précieux de sa mère morte, lui restant encore, et voici que ce sacrifice était inutile. Avant que M. de Ploy rentrât, elle le voyait déjà en sûreté en Angleterre, mariée avec M. de Sorbier. Et il fallait renoncer à tout cela. Enfin, conclut M. de Ploy, ce scélérat de Robespierre ne sera pas toujours en pouvoir. Il y a une justice et. Deux coups légers, frappés contre la porte, interrompirent ce souhait. Le père et la fille pâlirent. Ce doit être Monsieur Gardex, fit à voix basse le comte de Ploy, qui rapidement rafla les assignats épars sur la table, les enfouit dans les poches de sa redingote et alla ouvrir. La porte de la chambrette donnait sur un étroit palier carré d'un mètre à peine de large, où aboutissait l'escalier en colimaçon aux marches usées desservant l'immeuble. Depuis plus de 10 minutes, un petit homme maigre, enveloppé d'un ample manteau de drap gris, ses mains osseuses croisées derrière son dos sur un bâton de cornouiller, était en sentinelle sur le palier, l'oreille collée à la serrure de la porte. Il n'avait pas perdu une syllabe de la conversation qui venait de s'échanger entre le père et la fille. N'ayant sans doute plus rien à prendre, il manifestait enfin sa présence. Ah, monsieur Gardex, fit monsieur de Plaouy, qui, la porte ouverte, reconnaissait son visiteur. Chut! Souffla le nouveau venu d'un air mystérieux. Ne prononcez pas mon nom. Si on le savait ici, nous serions tous perdus. Tout en parlant, il était entré. M. de Plaonir referma aussitôt la porte sur lui et lui tendit une chaise. Gardec s'assit. Il semblait embarrassé. Son visage jaunâtre, marqué de petites véroles, était plus pâle que de coutume. Ses petits yeux gris se mouvaient de droite à gauche sans s'arrêter. Il tira de sa poche une petite tabatière de corne, offrit une prise à M. de Ploy, qui refusa de la main, aspira une pincée de tabac et toussa. Jérôme Gardex, en effet, était fils d'un des fermiers de M. de Ploy, au temps où le comte avait encore des fermiers, et dont la Révolution avait fait un membre du comité de salut général. Bien qu'il affectât de protéger l'ancien patron de son père, que le hasard lui avait fait retrouver à Paris, il se sentait malgré tout un peu intimidé devant lui. Le père et la fille, immobiles et muets, cependant attendaient. Ces citoyens de la section Le Pelletier sont de plus en plus méfiants, murmura enfin Gardex à voix basse. Cet après-midi encore, le menuisier Cochin a déclaré que l'ardeur des patriotes se relâchait et que les aristocrates relevaient la tête. Il a demandé des exemples. Et votre nom a été prononcé, mes chers amis. Mais j'ai pris votre défense. Le citoyen Jérôme Kardex, membre du comité de la Sûreté Générale, est connu. Le citoyen Guichin s'est tué, mais il recommencera. Oh, c'est un homme haineux et dangereux. Monsieur de Plory saisit les mains du révolutionnaire. Mais comment vous remercier, ma inanime amie, dit-il. Hélas, votre dévouement. Oh, mais je l'ai fait comme mon devoir, poursuivit Gordex emphatiquement. Mais je crains de ne pouvoir continuer à vous protéger. De nombreux patriotes vous en veulent. Ils prétendent que vous vous préparez à émigrer. Monsieur de Plory et sa fille tressaillirent. C'est un crime puni de mort, poursuivit Gardex, à qui ce tressaillement n'avait pas échappé. Moi, je ferai l'impossible pour vous sauver, mais quelle preuve donner de votre civisme? Oh, je vous avoue que j'étais embarrassé à la séance de cet après-midi. J'ai vu le moment où je ne savais plus que répondre. Mais la Providence, ou l'être suprême, comme ils disent, m'a inspiré. J'ai déclaré que j'étais si sûr de votre civisme que moi, Jérôme Kardex, j'avais demandé la main de la citoyenne Blowy. Kardex s'interrompit d'une seconde. Sa voix devint un peu plus rauque et il reprit. Et en vérité, citoyen Blowy, je serais bien heureux de devenir votre gendre et de faire le bonheur de votre fille. Alors je vous demande donc sa main. Un silence suivit. Aimé de Plaouy avait affreusement pâli. Son père la regarda et regarda Gardex. « Oh, c'est impossible, citoyen Gardex, dit-il lentement. Ma fille est encore trop jeune pour... »« Mais elle a 20 ans, interrompit Gardex âprement. « C'est vrai, poursuivit M. de Plaouy, sans se démonter, mais elle est de santé très délicate. Oh, j'attendrai un mois s'il le faut. Écoutez-moi, M. Gardex, vous savez combien nous vous devons de reconnaissance. Eh bien, mettez le comble à vos bienfaits en renonçant à mon enfant. Vous ne trouvez peut-être pas assez bon pour elle? « Monsieur Gardex, vous vous méprenez. Enfin, vous me refusez la main de votre fille à moi, Jérôme Gardex, membre du comité de la Sûreté Générale, » siffla Gardex en se levant. « Mais ma fille est trop jeune. Vous voulez dire que vous ne voulez pas la donner à un roturier ?»« Parce qu'elle est fiancée à un aristocrate, oui, mais prenez garde. » Je ne crains que ma conscience, monsieur Gardex. C'est votre dernier mot? Je le regrette. Ma fille ne veut pas se marier encore, d'ailleurs. Elle se mariera sans son. Et vous aussi, son aristocrate de fiancé, gronda Gardex en marchant vers la porte. Son visage était effrayant. La main sur la clé, il s'arrêta et fixa le père et la fille qui le regardaient. « Demain matin, à 5 heures, je reviendrai chercher votre réponse. J'espère que vous aurez réfléchi d'ici là. Je vous salue, citoyenne, et vous aussi, citoyen. » Il sortit sur ces mots. Monsieur de Plaouy et sa fille entendirent son pas descendre dans l'étroit escalier. « Nous sommes perdus, mon père !» gémit mademoiselle de Plaouy en se précipitant dans les bras du comte. « Si vous me le permettez, je serai la femme de cet homme, et vous, vous partirez en Angleterre, ensuite... » Un sanglot déchira la poitrine de la jeune fille. « Du calme, mon enfant. Il nous reste une chance. Je vais la tenter. Si elle nous est défavorable, eh bien, nous mourrons ensemble. » Il y a de la place pour tous dans la Seine. Allez, laisse-moi. » Et se dégageant des bras de sa fille, le vieux gentilhomme prit son chapeau et se redirigea vers la porte. Il est 11 heures, dit-il. Je serai ici dans 2 heures au plus tard. N'ouvre à personne. Adieu. Mais où allez-vous, mon père? Sanglota Aimé de Plaouy. Mais te le dirai en revenant. Ferme bien !» Et le comte, ayant baisé sa fille au front, passa la porte et disparut. Il eut rapidement descendu les 5 étages, traversa l'étroite allée reliant la porte de la maison à l'escalier et fut dans la rue. La neige ne tombait plus, mais un épais tapis blanc recouvrait le sol. Monsieur de Blois marchait à grands pas, tournant la tête à brefs intervalles pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. En quelques minutes, il eut atteint le palais Égalité, ainsi appelait-on alors le palais royal. Malgré la saison, malgré l'heure avancée, malgré la terreur, une foule nombreuse circulait sous les galeries, sortant ou entrant dans les innombrables passages de l'immense bâtisse. M. de Blois ralentit sa marche, cherchant évidemment quelque chose. Il arriva bientôt devant une petite porte percée au côté d'un café et au-dessus de laquelle se lisait, peint en blanc sur un panneau de bois noir, ce simple chiffre 7 entre 2 trèfles, tels qu'ils sont imprimés sur les jeux de cartes. Sans hésiter, le vieux gentilhomme poussa la porte et se trouva dans un couloir éclairé par une petite lampe suspendue à la muraille et qui aboutissait à un escalier. Une sorte de géant était assis sur les premières marches. À la vue de M. de Blois, il se redressa. « Vous désirez, citoyen ?» demanda-t-il. « C'est aux 2 trèfles que je vais, » répondit le comte, qui connaissait le calembour. « 7 aux 2 trèfles, formant le mot de passe. » Sans mot dire, le géant s'écarta. Monsieur de Blois, lentement, monta l'escalier, lequel s'arrêtait au premier étage. Le comte, après avoir traversé un petit vestibule, pénétra dans une vaste salle qu'éclairaient 3 immenses candélabres fixés au plafond. Une agitation intense, un bourdonnement continu y régnait. Debout, assis, penché sur des dossiers des sièges, plus de 200 personnes de tout sexe, de tout âge, de tout rang, hommes, femmes, jeunes gens, vieillards, se pressaient autour des 3 tables oblongues. Des aristocrates, des fournisseurs aux armées, reconnaissables à leur tenue soignée, coudoyaient de farouches sans-culottes. Tous semblaient avoir laissé leur passion au dehors. Une seule, la même, les dominait, le jeu. Car l'on jouait gros jeu aux 7 trèfles. Dans tout le monde des joueurs et des débauchés, la maison était connue. Des fortunes s'y étaient édifiées en une nuit. Des fournisseurs aux armées, ils avaient dilapidé en 2 heures leurs gains énormes de plusieurs mois. M. de Plorin y était peu connu, n'y étant venu qu'à de rares intervalles pour y accompagner des amis, tous guillotinés ou émigrés à 7 heures. Maintenant, n'ayant plus d'espoir, plus rien à attendre de personne, il voulait essayer de tenter la chance du jeu. Aussi bien les 27 000 livres en assignat qu'il avait avec lui ne pouvaient lui être d'aucune utilité. Il s'approcha d'une des tables et misa 1 000 livres qu'il perdit. Il en misa 1 000 autres, puis 1 000 encore. En moins d'un quart d'heure, après des alternatives de gains et de pertes, il eut perdu 20 000 livres. Mais son calme ne l'avait pas abandonné. « Allons, le sort en est jeté » murmura-t-il en jetant sur la table le dernier paquet d'assignats, en tout 7 000 livres lui restant encore. Et il gagna. Or, cinq fois il laissa sa mise, et 5 fois il gagna. Tous les regards s'étaient tournés vers lui. Il possédait maintenant plus de 400 000 livres, 2 fois plus qu'il en avait promis d'apporter au baron de Sorbier. Sans écouter le croupier qui invitait les assistants à miser, M. de Plouy dont les mains, malgré tout, tremblaient un peu, attira à lui la montagne d'assignats entassés devant sa place et en bourra ses poches. Ramasser les valeurs si vite et surtout si opportunément gagnées est une occupation absorbante, bien que courte. C'est pourquoi le comte de Plouy ne s'aperçut pas que trois hommes à mine plus que douteuse, qui depuis quelques ans suivaient sa chasse avec une attention intéressée, sortaient de l'établissement. Monsieur de Plouy, le cœur éclatant de joie, quitta la salle. Il se sentait rajeuni de 20 ans. Il eut rapidement descendu le petit escalier, franchit la porte donnant sous les galeries, et à grands pas se dirigea vers la rue des Petits Champs. Les trois individus qui étaient sortis quelques instants avant lui du 7 au trèfle et qui s'étaient apostés dans une porte voisine lui emboîtèrent aussitôt le pas. Monsieur de Plouy, tout à sa joie, marchait vite, sans plus penser à l'erreur, aux misérables gardex et à tous les périls qui l'entouraient. Il fut bientôt dans la rue Croix des Petits Champs, suivi à une centaine de mètres par les trois joueurs, ou prétendus tels. Ceux-ci rasaient les maisons, l'œil aux aguets, attendant évidemment d'être arrivés à un endroit propice pour exécuter leur projet, c'est-à-dire dépouiller Monsieur de Plouy de ses gains. Mais soudain, comme le vieux gentilhomme allait tourner l'angle de la rue Coquillière, deux hommes surgirent d'une maison en construction devant laquelle ils passaient. Une minute, citoyen, fit l'un d'eux d'un ton menaçant. Vous allez, avant de pénétrer chez vous, me remettre l'argent que vous venez de gagner. Il pourrait servir à accomplir votre projet de voyage avec le citoyen Sorbier. Frémissant, monsieur de Plouy reconnut Jérôme Gardex. Il voulut reculer, mais le membre du comité de la Sûreté Générale, qui avait un énorme pistolet au poing, le lui braqua sur la poitrine. Pas de bêtises, citoyen. Ce qui est dit, ricana-t-il. Je suis un homme de précaution, moi. On n'est pas de la police pour bien, hein? Je vous ai suivi. Je sais où vous êtes allé et que vous avez gagné 434 000 livres, pas moins. Le tenancier du 7 au 2 trèfle est un ami. Gardec s'interrompit et fit signe à son acolyte de s'éloigner. Celui-ci obéit. On ne trompe pas le petit père Gardex, citoyen Plouy, poursuivit le policier en baissant la voix. Je sais tout. Je connais votre projet de fuite avec Sorbier, que je me réserve de faire coffrer demain matin. Il fera connaissance avec le rasoir national au plus tôt. Quant à vous, vous allez de suite me remettre vos assignats. Ils serviront de dot à la citoyenne Plaoui. L'argent aussi ne sortira pas de la famille. Allez, dépêchons! Misérable! Gronda le comte en saisissant le bras du policier. Celui-ci, d'une secousse, se dégagea et sauta en arrière. Bourrier, à l'aide! Cria-t-il. C'est un aristocrate, arrête-le! L'acolyte de Gardex, qui se tenait à quelques pas en arrière des deux hommes, s'élança vers Monsieur de Plogny. Le vieux gentilhomme, enivré de désespoir, se rua sur Gardex, les poings en avant, et le membre de la Sûreté Générale, apeuré, fit feu. Mais Plogny s'étant baissé, ce fut Bourrier qui reçut la balle dans la tête. Oh, traître, tu ne m'échapperas pas, reprit Gardex, affolé, en tirant un long poignard de sa ceinture. Monsieur de Plouy, acculé entre son ennemi et la muraille d'une maison, semblait perdu lorsque les trois individus qu'il avait suivis jusqu'alors et avaient assisté à toute cette scène, cachés derrière les gravats de la maison en construction, jugèrent que le moment était venu pour eux d'intervenir. S'ils ne voulaient pas être devancés, ils se ruèrent vers Gardax et Monsieur Le Ploï. Hé, l'ami, doucement, fit l'un d'eux en posant la main sur l'épaule du policier. Cet homme est à nous, c'est une connaissance. Un cousin, fit le second individu. De province, affirma le troisième. La stupeur emplit Gardex devant cette intervention inattendue. Il se retourna et son ahurissement se changea en fureur. Au large, voleur, glapit-il, où je vous fais arrêter comme complice de cet aristocrate. Je suis de la police. Dans ce cas, file si tu ne veux pas qu'on te fasse ton affaire, conseilla doucement le premier des individus. Aux armes, à moi, hurla Gardex en même temps qu'il plongeait son arme dans la poitrine de son interlocuteur. L'homme tomba. Mais avant que son corps ait touché le sol, un de ses compagnons, arrachant le poignard des mains du policier, le lui planta dans la gorge. Gardex poussa un râle et s'écroula. « Et l'autre qui fuit ?» s'écria le troisième voleur. Il disait vrai. Monsieur de Ploï, profitant de ce que Gardex s'était retourné pour faire face aux coupeurs de bourse, s'était glissé en silence le long de la muraille, sans que nul ne s'en aperçût par suite de l'obscurité, et parce que d'autres préoccupations attiraient l'attention des acteurs de cette scène. Et après s'être éloigné de quelques mètres, le vieux gentilhomme, faisant appel à toutes ses forces, avait pris sa course au moment même où Gardex tombait, poignardé. Les deux voleurs, furieux, enragés, s'élancèrent dans sa poursuite. Mais le comte avait plus de 50 mètres d'avance. Le désespoir lui donnait des ailes, il semblait avoir retrouvé la vigueur de sa jeunesse. Il tourna à droite, à gauche, encore à droite, parcourut toujours au grand galop, talonné par les pas des deux bandits qui résonnaient sur la neige durcie, une douzaine de rues, et bientôt n'entendit plus rien. Il se retourna, personne. Prudemment pourtant, il continua sa course, décrivit encore de nombreux détours et finalement arriva dans la rue du Four-Saint-Honoré, comme 2 heures du matin sonnait à l'hôtel de ville. S'étant assuré une dernière fois qu'il n'était pas suivi, il se dirigea vers sa maison, entra et, haletant, fourbu, mais empli d'une joie énorme, il escalada d'un trait les 5 étages et frappa à la porte de la chambre où il avait laissé sa fille. « Ah, mon père !» s'écria la jeune fille d'une voix tremblante. « Oh, j'étais bien inquiète !» « Oui, je suis en retard, d'une heure. Allez, ferme la porte, ma fille. »« Mais les nouvelles sont bonnes, haleta Monsieur de Ploï. » Aimé, très pâle, regarda son père, n'osant l'interroger. Monsieur de Ploï se laissa tomber sur une chaise. Il était rendu. Mais il ne voulut pas prolonger une seconde de plus le supplice de son enfant. « Jérôme Gardex est mort, » dit-il à voix basse, « tué par des bandits au moment où il allait m'arrêter. Et j'ai de l'argent pour acheter les chevaux, regarde !» Et le vieux gentilhomme jeta sur la table des liasses et des liasses d'assignats. « 400 000 livres, » dit-il. Et nous en fallait que 200. Aimé de Planchy ne répondit pas. Moins forte devant le bonheur que devant l'infortune, elle venait de s'évanouir. Son père la retint à temps pour l'empêcher de rouler sur le carreau. Mais ce sont des évanouissements qui durent peu. 1 heure plus tard, le père et la fille quittaient, pour ne plus y retourner, la petite chambre de la rue du Faubourg-Saint-Honoré et se dirigeait vers la porte Montmartre. Monsieur de Sorbier était au rendez-vous. Grâce à la petite fortune apportée par le comte de Plaouy, trois chevaux et une voiture pouvaient être aussitôt achetés. Les fugitifs prirent la route de Calais, d'où, à la suite de l'aide des passeports que s'était procuré M. de Sorbier, ils gagnèrent l'Angleterre. Inutile d'ajouter, n'est-ce pas, qu'Élevé de Plaouy devint baronne de Sorbier. Leur mariage fut célébré quelques mois plus tard. Parmi les officiers qui se distinguèrent au cours de la conquête de l'Algérie, il est question d'un colonel de Sorbier. C'était le fils d'Aimé de Plaouy.